éternel, Dieu tout-puissant, notre Dieu, Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, nous venons devant toi en Église ce matin, répondant à ta sainte convocation, afin de te rendre un culte. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, car c'est un réel bienfait de ta part que nous puissions ainsi nous retrouver ensemble, dans ta présence. Lorsque nous avons quitté nos domiciles ce matin, éternel notre Dieu, lorsque nous nous sommes réveillés peut-être, ouvrant nos volets, si nous avons pu prendre le temps de considérer ta création, nous avons vu, Seigneur, au travers de celle-ci, ta toute puissance. Combien, Seigneur, par cette création, tu montres ta divinité, ta puissance éternelle, ta grande sagesse. Tout est parfaitement ordonné. Lorsque nous considérons les collines, les champs, les montagnes, le ciel, les animaux, le bétail, les animaux sauvages, les oiseaux, lorsque nous considérons même, Seigneur, qui nous sommes, nous pouvons alors nous écrier, Seigneur notre Dieu, que tout ce que tu fais est merveilleux et que nous sommes des créatures merveilleuses. Nous ne le disons pas, éternel, en nous glorifiant, mais en considérant, Seigneur, combien toute ta création, toute ton œuvre est parfaite. Et c'est en nous souvenant, éternel, en regardant à cette œuvre et en nous souvenant de celle-ci et en considérant, Seigneur, la perfection de ce que tu fais, de qui tu es et de ta puissance, que dès lors que nous passons par des temps d'épreuves, de souffrances, comme le psalmiste peut-être ce matin qui regarde, Seigneur, aux montagnes d'épreuves qui sont devant lui, nous pouvons parfois nous écrier « D'où me viendra le secours ?» Mais nous nous souvenons donc, éternel, devant un tel témoignage de perfection et de puissance, d'amour, de sagesse, que notre secours, en tant que tes enfants, nous vienne de toi. Et nous voulons et pouvons témoigner ce matin, éternel, en jetant un regard rétrospectif sur la semaine passée, ou peut-être les semaines, mois, voire années passées, que tu es un Dieu fidèle, alors que nous sommes infidèles. Car éternel, si nous t'offensons de différentes façons, transgressant, Seigneur, tes commandements, ne serait-ce que le premier qui nous ordonne de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, Seigneur, toi, tu t'occupes avec bienveillance de nous. Alors que nous étions sans toi, éternel, tu es venu à notre rencontre, tu t'es fait connaître à nous. Tu nous as donné une vie nouvelle, tu nous as conduit à la repentance et à la foi, tu as fait de nous des enfants d'adoption, tu as commencé une œuvre de sanctification et ta parole nous enseigne que cette œuvre sera poursuivie, Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'au moment où nous serons rendus parfaits, au retour de ton Fils. Dès lors, donc, tu nous accompagnes. Et Seigneur, cette semaine qui s'est écoulée jusqu'à hier, au cours de celle-ci, éternelle, nous t'avons donc déplu, mais nous avons aujourd'hui et nous avions au cours de cette semaine, jour après jour, l'assurance que si nous avons péché, nous avons un Dieu qui est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et nous venons ce matin, Seigneur, en assemblée, te demander pardon, nous repentir, Seigneur, pour tous ces péchés, avec cette assurance de ton pardon. Éternel notre Dieu, un dimanche suit un autre dimanche. Nous sommes habitués à nous réunir dans ces lieux et, Seigneur, cette habitude peut être parfois préjudiciable à te rendre un culte. C'est ainsi que nous te demandons ce matin, Seigneur, de nous renouveler et d'abandonner toute préoccupation, quelque légitime ou illégitime qu'elle puisse être. Nous te demandons, Père, la grâce du renouvellement de ton Saint-Esprit. Nous te demandons que ce soit dans les moments de lecture de ta parole, de prédication ou de chant, ou dans les moments de prière, tu nous secours par l'Esprit Saint. Nous te demandons par-dessus tout que tu sois le centre de ce culte, que toi et toi seul puisses être honoré et glorifié. Nous avons une pensée pour celles et ceux qui, ce matin, ne sont pas parmi nous, pour différentes raisons et pour certains particulièrement pour des raisons de maladie. Et nous te supplions, Éternel, que tu veuilles te tenir particulièrement auprès d'eux, que tu veuilles apaiser leurs souffrances et que, Seigneur, peut-être dans la solitude qui est la leur, ils soient soutenus par toi, sentant particulièrement ta présence auprès d'eux et que ta paix, qui surpasse toute connaissance et toute intelligence, puisse les remplir. Nous te prions pour ton Église, car nous avons conscience, Éternel, que ici, dans cette ville, dans ce canton, dans ce pays et dans ce monde, nous ne sommes pas les seuls chrétiens. D'autres frères et sœurs te connaissent, t'appartiennent, ont été sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, sur la croix, et se réunissent ce matin en ton nom, au nom de Jésus-Christ, pour te rendre un culte. Et nous te prions pour ces frères et sœurs avec lesquels nous sommes en communion, te suppliant que tu les bénisses, et tout particulièrement ceux qui sont appelés à prêcher ta parole. Nous avons une pensée particulière pour les frères et sœurs éprouvés de différentes façons et nous t'apportons particulièrement ceux qui sont à Madagascar aujourd'hui et qui souffrent, Seigneur, cet état de révolte, de révolution, d'insécurité terrible. Nous pensons à nos frères et sœurs missionnaires, aux Ratovos en particulier, à tous ceux que tu connais là-bas. Éternel, nous te remettons aussi ce monde qui se perd et nous pensons en particulier à nos autorités, demandant que tu sois particulièrement aussi auprès de ces hommes et femmes que tu as appelés à des postes de responsabilité. Nous te demandons, Père, de les renouveler, de leur accorder la sagesse et le discernement dont ils ont besoin. Et particulièrement dans ces temps troublés, à tous égards, et dans ces temps troublés, ô notre Dieu, nous te prions afin que beaucoup, Seigneur, puissent rentrer en eux-mêmes, Seigneur, puisse considérer leur vie, la vanité de celle-ci, puisse être éclairé quant à leurs péchés et crier à toi. Seigneur, se repentir de leurs péchés, Seigneur, et mettre leur confiance en Christ et en Christ seul pour leur salut. Nous te prions vraiment afin que beaucoup puissent passer des ténèbres à ton admirable lumière. Ô notre Dieu, nous te demandons toutes ces grâces ce matin, ton peuple réuni. Non pas pour nous, pour notre gloire, pour un gain quelconque, éternel, mais vraiment, réellement, pour ta seule gloire, car tu es le seul vrai Dieu qui mérite la louange, la gloire et l'adoration au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à la lecture du texte de la prédication de ce matin. Ouvrez donc vos Bibles dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous nous avons de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. À propos donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car, quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns, retenus encore par l'habitude à l'égard de l'idole, mangent de ces viandes en tant que sacrifiés et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Prenez garde toutefois que votre droit ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à table, dans un temple d'idoles, sans conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? et ainsi le faible périt par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en heurtant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment fait tomber mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande afin de ne pas faire tomber mon frère. Voici donc le texte de la prédication de ce matin dans la parole de Dieu. Que notre Seigneur bénisse sa parole qui sera prêchée dans quelques instants et qui sera également annoncée aux enfants. J'invite encore à la prière. Ô Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce pour la sainte parole que tu nous as donnée, par laquelle, Dieu incompréhensible, tu te fais connaître à nous. Elle est et demeure notre seule norme de vie et de foi. Seigneur, nous avons conscience que pour comprendre cette parole, nous avons besoin du secours de ton esprit, et c'est ce que nous te demandons ce matin. Parle à nos cœurs. Secours-moi dans l'annonce de cette parole. Que toute préoccupation, une fois encore, Seigneur, soit évacuée, Seigneur, de nos têtes, de nos pensées, et que, comme des serviteurs fidèles, aux pieds de leur maître, nous puissions être à ton écoute, prêts à écouter et à nous laisser transformer par cette parole. Nous te remettons les enfants, ces âmes jeunes qui sont à l'écoute de cette parole, eux aussi, elles aussi. Et nous te demandons d'agir puissamment en elles. Éternel, que ces cœurs qui ne connaissent peut-être pas encore, Seigneur, bien des ornières dans lesquelles on peut se fourvoyer après des années, comme ces terres meubles éternelles qui sont leur cœur, et bien qu'ils puissent ou que ces âmes puissent recevoir ce qui sera semé ce matin. Secours les moniteurs et les monitrices de l'école du dimanche. Éternel, que cette parole annoncée ce matin dans ce lieu puisse porter du fruit à ta gloire. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, au chapitre 7 que nous avons considéré sur deux prédications, dans l'avance de cette épître aux Corinthiens que nous avons commencé il y a bien des mois maintenant, nous avons considéré la réponse de Paul à une première question que lui avaient posée par courrier les chrétiens de Corinthe à propos du célibat et du mariage. Et dans ce chapitre 8, que nous venons de lire et que nous allons considérer ce matin, eh bien l'apôtre répond cette fois à une deuxième question posée dans le même courrier. Elle concerne les viandes qui étaient sacrifiées ou offertes aux idoles dans les temples païens à cette époque-là. Et cette question est toute simple. Est-ce que les chrétiens ont, oui ou non, le droit de manger de ces viandes sacrifiées aux idoles? Alors pour bien comprendre le problème qui se pose à ces Corinthiens et qui motive cette question, il faut savoir que le sacrifice était au centre de la vie antique, qu'elle soit grecque ou romaine, et qu'il accompagnait donc la plupart des grands événements de la vie. Et c'est ainsi que lorsque l'on voulait célébrer dignement une fête de famille, un événement national, une rencontre amicale, eh bien, il fallait aller au temple pour y offrir un sacrifice. Et en général, cette offrande, ce sacrifice, se divisait en trois offrandes de viande. Une première offrande qui était brûlée sur l'autel de l'idole et qui était pour l'utilisation de l'idole. Une deuxième offrande, c'est-à-dire un don de viande, en général, qui était offert au sacrificateur, au prêtre qui servait au temple. Et enfin, la troisième offrande qui était donnée, était rendue par les prêtres, pas celui qui venait faire l'offrande. Donc trois offrandes, à l'idole, au prêtre, et puis une partie était rendue à celui qui offrait. Le problème, c'est que ces sacrifices étaient si nombreux que les prêtres n'avaient pas un estomac assez gros, si vous me permettez l'expression, pour consommer à eux seuls toute la viande qui leur était ainsi donnée. Et c'est ainsi qu'ils vendaient le surplus de cette viande au marché. Et dès lors, il était quasiment impossible à un chrétien qui désirait garder un minimum de contact personnel avec des païens, ne serait-ce que sa propre famille, de ne pas être confronté un jour ou l'autre à ce cas difficile de conscience. Comment devait-il se comporter lorsqu'il était invité à un repas, au cours duquel étaient proposées ces viandes qui avaient été au préalable offertes ou sacrifiées à une idole. Devait-il refuser l'invitation au risque de blesser ses hôtes et d'être peut-être rejeté par ses parents et amis? Devait-il au contraire venir et manger de tout au risque de donner l'impression à tous, non-croyants et croyants peut-être, qu'il approuvait l'idolâtrie? Et encore cette question, s'il mangeait de cette viande offerte aux idoles, risquait-il d'être spirituellement souillé? Voyons donc combien le problème était complexe et difficile à résoudre pour ces chrétiens de Corinthe. Alors, c'est vrai que nous pourrions croire aujourd'hui qu'un tel problème a disparu. Et cela est en partie vrai, puisque de telles pratiques cultuelles n'existent plus aujourd'hui chez nous, je dis bien chez nous, en Occident et en Suisse en particulier. Toutefois, nous devons affirmer que le paganisme n'est pas réellement mort pour autant. Car le monde dans lequel nous vivons a ses idoles, et il ne cesse journellement de sacrifier à celles-ci. Et si nous considérons nos vies, nous nous souvenons que nous avions certainement nous-mêmes nos idoles autrefois, lorsque nous étions sans Dieu, idoles auxquelles nous étions asservis, auxquelles nous offrions peut-être notre temps, notre argent, voire notre vie dans son entier. Ainsi donc, puisque l'idolâtrie existe encore aujourd'hui dans ce monde qui adore tout et n'importe quoi, ça peut être le travail, les loisirs, le sport, les médias, eh bien nous sommes d'autant plus, en tant que chrétiens, confrontés à bien des cas de conscience aujourd'hui, à l'instar de ces Corinthiens. Et c'est ainsi que nous pouvons, en réaction justement à ce monde qui adore tout et n'importe quoi, connaître cette tension qui existe, qui peut exister et qui consiste d'un côté à vouloir peut-être rompre totalement avec le monde et ses pratiques idolâtres, au risque de tomber dans une forme de légalisme, et de l'autre côté, cette tentation à garder le contact avec les incrédules et leur mode de vie, au risque peut-être d'être entraîné par eux dans l'idolâtrie. Et voilà en fait deux écueils à éviter. Peut-être celui du légalisme d'un côté et celui de la licence de l'autre. Le légalisme qui consiste à voir tout ce qui existe de façon manichéenne. Je n'ai pas dit américaine, j'ai dit manichéenne. C'est-à-dire selon un principe de noir et de blanc. Et d'établir ainsi toute une liste de choses qui sont permises et toute une liste de choses qui sont interdites. Et de vouloir non seulement se les imposer, mais de vouloir encore les imposer à d'autres. Alors c'est vrai qu'il s'agit d'un principe qui est très rassurant et qui fait l'économie d'une réflexion biblique et prive, ou peut priver par voie de conséquence, le croyant de bienfaits que Dieu lui a donnés pour qu'il puisse en jouir librement. On s'en prive tout simplement parce que d'autres utilisent ces choses de façon malsaine, en les idolâtrant, en leur soumettant leur vie. La licence est quant à elle, vous l'avez bien compris, l'extrême opposé. Tout est permis. Tout est permis à moins que cela ne soit explicitement défendu par l'Écriture. Et c'est ainsi que la liberté chrétienne devient rapidement sans aucune restriction ni sans aucune limite. Si votre conscience vous permet de faire quelque chose, alors allez-y, faites-le. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on entend des fois dire certains de nos contemporains. Et c'est ainsi, par exemple, à titre d'illustration, qu'un frère, il y a bien des années de cela, me disait « Moi je fume parce qu'il n'est marqué nulle part dans l'Écriture que je n'ai pas le droit de fumer. Donc on peut y aller, consommer de la cocaïne, etc. » Finalement, ce n'est pas marqué, n'est-ce pas? En définitive, pour éviter, chers frères et sœurs, de tomber dans l'un ou dans l'autre de ces écueils, le légalisme peut-être ou la licence de l'autre côté, nous devons comprendre que nous sommes la plupart du temps confrontés dans nos vies chrétiennes aujourd'hui à des domaines qui ne sont pas clairement approuvés ou condamnés par la parole de Dieu. On peut même dire qu'ils semblent ni noirs ni blancs, mais plutôt gris. Et permettez-moi, pour être plus clair, de prendre quelques exemples au hasard qui nous concernent tous les jours ou dans notre vie. Est-ce que le chrétien peut boire de l'alcool? Le chrétien peut-il aller au cinéma? Peut-il aller au restaurant? Peut-il jouer aux cartes? Peut-il regarder la télé? Peut-il écouter de la musique moderne, celle qui passe à la radio? Peut-il danser? Peut-il jouer d'un instrument? Peut-il surfer sur le net? Une chrétienne peut-elle se maquiller ou s'habiller comme elle l'entend, mettant un pantalon, une jupe plus ou moins courte, un décolleté, avoir les épaules nues? Est-ce qu'un chrétien, un homme chrétien, par exemple, peut s'engager dans la politique, devenir militaire de carrière? Peut-on devenir un artiste? Peut-on pratiquer n'importe quel sport? Peut-on aller au fitness en tant que chrétien? Peut-on faire un sport de combat, un sport collectif? Danser, aller au théâtre, voir un match au stade, etc., etc., etc. En définitive, la question de fond qui se pose à nous dans tous ces domaines est celle-ci. Jusqu'où va ma liberté chrétienne en matière de conduite à propos de ce qui n'est pas spécifiquement ou précisément défendu par la parole de Dieu? Eh bien, c'est à cette question que l'apôtre Paul, sur la base des viandes sacrifiées aux idoles, et de cette question que se posaient ces Corinthiens, apporte une réponse, non seulement aux chrétiens de Corinthe à l'époque, mais aussi à nous aujourd'hui. Et il le fait de la façon suivante. Il va tout d'abord montrer dans ce passage que tous les croyants, je dis bien tous les croyants, savent que les idoles ne sont rien face à Dieu. Mais il va montrer ensuite que malgré tout, parmi ces croyants, certains sont plus faibles dans leur foi, et encore dans la crainte à propos de l'idolâtrie, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas manger de ces viandes. Alors que d'autres chrétiens sont plus forts et ne se sentent plus liés par l'idolâtrie, alors ils ont cette liberté de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Et enfin, troisième lieu, s'adressant justement à ces chrétiens plus forts, eh bien Paul leur transmet un principe intangible. Celui de ne pas faire de leur liberté une occasion de chute vis-à-vis de leurs frères qui sont plus faibles dans la foi, en ne les exposant pas au péché par leur liberté. J'aimerais encore dire ceci avant de vous donner le titre et les points de la prédication. C'est que Paul explique clairement ce principe dans ce chapitre 8, mais comme nous allons le voir dans les semaines prochaines, il l'illustre au chapitre 9 et au début du chapitre 10, et au chapitre 10 et début du chapitre 11, il va l'appliquer. Donc, ce principe va être repris plusieurs fois ces prochaines semaines, lors des prochaines prédications. Alors, le titre de la prédication est celui-ci. La liberté chrétienne et ses limites. Et comme vous l'avez compris, j'aurai trois points dans cette prédication. Le premier est celui-ci, une même connaissance. Le deuxième, deux catégories de chrétiens. Et enfin, le troisième, comment vivre sa liberté chrétienne. Le premier point, une même connaissance. Ce sont les versets 1, 4 à 6 et le verset 8. Alors au verset 1, Paul commence par affirmer à propos de cette question de l'idolâtrie et des viandes sacrifiées aux idoles que tous les chrétiens, je le répète, je l'ai dit précédemment, que tous les chrétiens de Corinthe, sans exception, savent exactement à quoi s'en tenir. Il écrit ceci. Nous savons que nous avons tous de la connaissance concernant ces viandes sacrifiées aux idoles. Et il continue son raisonnement après une digression qui va du verset 1, deuxième partie du verset 1 jusqu'au verset 3. Il continue dans les versets 4 à 6 en étayant cette affirmation, en rappelant à ces chrétiens de Corinthe les convictions qui sont effectivement les leurs. Ayant connu la vérité, au moyen des enseignements qu'ils ont reçus par Paul à l'époque, puis par Apollos, eh bien, tous ces chrétiens ont découvert la vérité de l'existence, de la souveraineté et du règne absolu et tout-puissant du seul vrai Dieu sur tout l'univers. Et par voie de conséquence, le mensonge de l'idolâtrie dans laquelle ils vivaient autrefois leur est apparu dans toute son horreur. Et tous ces hommes et toutes ces femmes savent désormais que l'idolâtrie n'est qu'une vaste supercherie, une superstition qui n'a aucun fondement. Et dorénavant, pour eux, les idoles qu'ils adoraient autrefois ne sont plus que de vulgaires statues de pierre ou de bois qui sont incapables d'exercer une influence quelconque sur le cours de l'histoire ou même sur leur vie. Et ils pourraient dire avec le psalmiste, à propos des idoles, bien qu'elles sont faites d'or et d'argent. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Voilà ce qu'ils ont compris à propos de ces idoles. Alors c'est vrai qu'au verset 5, l'apôtre rappelle que derrière quelques-unes de ces idoles, ou peut-être la plupart de ces idoles, se cachent néanmoins des démons. Et il reviendra là-dessus un peu plus tard. Des démons que l'on appelle improprement à l'époque des dieux avec un petit d, ou des seigneurs avec un petit s. Mais comme il l'écrit clairement au verset 6, aucune de ces pseudo-divinités ne peut désormais faire concurrence chez ces chrétiens au seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui s'est fait connaître à eux. Car ayant connu par grâce le seul vrai Dieu, eh bien ces croyants sont maintenant, je le répète, libérés de l'asservissement de ces fausses divinités. Toutes les puissances démoniaques qui sont même cachées derrière ces idoles, eh bien ne les épouvantent plus, puisque Dieu, en Jésus-Christ, les a vaincus et les tient en bride. Il n'y a donc plus de place pour ces idoles dans leur vie. Et Paul, au verset 6, écrit même ceci: pourquoi continuer d'adorer ces idoles et d'attendre quoi que ce soit de leur part, puisque, comme il l'exprime, le Père est celui de qui viennent toutes choses pour ses enfants. Donc pas besoin d'aller faire un sacrifice et d'attendre la générosité de l'idole. Pourquoi continuer d'offrir à ces statues leur vie en sacrifice, puisque le Dieu vivant auquel croient maintenant ces Corinthiens est celui pour qui ils sont? Rappelons-nous qu'il est celui pour qui nous sommes. Et disons encore que Jésus-Christ, Dieu le Fils, est devenu quant à lui leur seul médiateur, celui par qui ils ont accès au Père, mais aussi celui qui par son sacrifice les a délivrés de l'esclavage et de la condamnation qui pesait sur eux à cause de leur idolâtrie. Ayant donc connu le mensonge de l'idolâtrie, en ayant été délivrés et étant devenus enfants de Dieu, eh bien, ces croyants corinthiens devraient dès lors tous comprendre que toute viande sacrifiée à une idole demeure de la viande ordinaire, à laquelle ne s'attache aucune malédiction ou aucune souillure, et qu'ils peuvent donc en manger sans problème. Pourtant, comme nous allons le voir dans quelques instants, tel n'est pas le cas pour tous, car certains de ces croyants demeurent plus faibles que les autres et méritent, de ce fait, l'attention bienveillante de ceux qui sont plus forts. Mais ça, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Au préalable, permettez-moi, sur la base de ce que je viens de dire, de ce que nous venons de voir, donc de dire ceci. Si Dieu, chers frères et sœurs, vous a fait la grâce de devenir ses enfants par le moyen de la repentance et de la foi en Jésus-Christ, s'il est dès lors devenu l'objet principal de votre foi et de votre vie, eh bien vous n'avez plus à regarder les êtres et les choses, voire les activités de ce monde, de sur cette terre, avec crainte, parce que peut-être le monde les adore. Vous n'avez plus non plus à les regarder avec adoration, puisque maintenant, c'est Dieu que vous adorez. Mais vous devez au contraire vous souvenir que la plupart de ces choses ont été créées par Dieu, qu'elles sont bonnes pour vous, et que vous n'avez pas à les rejeter, pourvu, comme le dit Paul à Timothée, que vous en usiez avec action de grâce. Et c'est le cas du travail, parce que le travail peut devenir, je l'ai dit tout à l'heure, une idole, des boissons, de la nourriture, des vêtements, du sport, de l'art, etc., etc. Et lorsque vous êtes peut-être confronté à un dilemme à propos de l'une ou de l'autre de ces choses, et que vous ne savez comment il convient d'agir ou de vous engager, alors souvenez-vous qu'il y a une façon biblique d'agir. Il importe alors d'examiner si les actes, les personnes ou les biens en question pourraient porter préjudice à votre vie spirituelle et vous éloigner de Dieu. Si tel pourrait être le cas, si tel objet, telle personne, tel lieu pourrait porter préjudice à votre vie spirituelle, alors il vous faut savoir renoncer dans votre liberté chrétienne à telle chose, à telle personne, à telle action, qui peut être bonne en elle-même, mais qui pourrait diminuer votre zèle pour Dieu, ou votre résistance à la tentation, qui risquerait peut-être de vous entraîner dans ces passions qui vous animaient autrefois. Et dans ce sens, pour être pratique, j'essaierai de l'être ce matin, mesdames, mais je dirais messieurs tout à l'heure, de jolis vêtements ou un beau maquillage ne sont peut-être pas un mal en soi. Mais s'ils reflètent l'attention exagérée que vous portez à votre apparence au détriment de votre relation avec Dieu, voire s'ils ont comme objectif à ce que les yeux des hommes et des autres femmes se fixent sur vous par convoitise ou par jalousie, alors préférez peut-être, ou sûrement, des tenues et des maquillages ou un maquillage plus discret. Si, messieurs, la possession d'une voiture ou d'un ordinateur plus puissant, que sais-je encore, vous pousse à entretenir des pensées méprisantes pour ceux qui roulent ou qui pianotent avec des modèles plus rustiques, alors choisissez une voiture ou un appareil moins puissant. Si vous n'arrivez pas à gérer l'utilisation de la télévision, si votre conscience est reprise lorsque vous êtes assis devant le poste parce que vous pensez gaspiller votre temps qui pourrait être mieux consacré, peut-être à la lecture de la parole, pour le culte de famille, pour prendre soin donc des vôtres, alors éteignez et séparez-vous de votre télé. À propos de l'alcool, celui-ci n'est pas condamné par la parole de Dieu. Paul donne même comme conseil à Timothée de boire un verre de vin à cause de ses fréquentes indispositions. Mais si l'alcool commence à vous gouverner et à vous faire perdre petit à petit la maîtrise de vous-même, vous ne pouvez pas vous réfugier derrière la liberté chrétienne qui est la vôtre. Pour continuer, il vous faut soit diminuer, soit arrêter. Et permettez-moi encore un exemple. Si vous pratiquez du sport, ce qui peut être utile, voire même nécessaire, mais si le sport vous conduit à négliger les rassemblements de l'Église ou votre vie de famille, il vous faut soit diminuer, soit arrêter. En bref, chers frères et sœurs, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas libre de pratiquer les choses qui ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes lorsque celles-ci nuisent à votre croissance spirituelle et à vos devoirs légitimes en tant que chrétien. Le deuxième point, deux catégories de chrétiens. Ce sont les versets 1, deuxième partie du verset 1, jusqu'au verset 3, le verset 7, ou plutôt les versets 7 à 14. Vous comprendrez que les choses se tiennent beaucoup, c'est difficile de faire une section très très claire dans ce passage pour dire là il parle de ceci, là il parle de cela. C'est pour ça que je vous ai donné ces quelques versets. Après avoir donc considéré avec l'apôtre la connaissance de la vérité qui était celle de chacun de ces chrétiens de Corinthe, eh bien nous en venons maintenant à ces deux catégories donc que l'on trouvait parmi ces chrétiens à Corinthe et dont nous parle l'apôtre dans ce passage. Et ce que je vous propose c'est de commencer par ceux dont il est question au verset 7, c'est-à-dire les chrétiens plus faibles. Et il y a quelque chose d'étonnant, c'est que lorsque Paul affirme au verset 7 justement « tous n'ont pas cette connaissance », il semble contredire tout ce qu'il vient d'écrire précédemment et que je viens de dire ou de développer, à propos de la connaissance de la vérité, qui était celle donc de tous ces chrétiens de Corinthe. Mais en réalité, il ne contredit pas ce qu'il a dit. Il fait maintenant allusion à un autre aspect de la connaissance dont il parlait précédemment. Il ne s'agit plus, si je peux m'exprimer de cette façon-là, de la portée théorique de cette connaissance, par laquelle ces chrétiens ont connu et rencontré véritablement et personnellement le Seigneur, comprenant toutes les vérités relatives à la vanité des idoles, je sais que ce n'est pas une portée entièrement théorique, mais il ne s'agit plus de cela. Il s'agit maintenant de la portée pratique de cette connaissance, qui devrait permettre à tous ces chrétiens de vivre maintenant libres par rapport à leur vie d'autrefois. Les choses anciennes sont passées. Pourtant, certains de ces chrétiens, malgré tout ce qu'ils ont entendu, malgré tout ce qu'ils ont compris, continuent de demeurer faibles dans leur conscience. C'est-à-dire que leur connaissance de la réalité spirituelle des choses ne les a pas encore délivrés des superstitions qui étaient les leurs autrefois. Ils ont des scrupules excessifs pour des domaines qui sont pourtant spirituellement neutres. Et ces chrétiens faibles ne peuvent s'empêcher de craindre les idoles. Pour eux, malgré tout ce qu'ils savent, malgré tout ce qu'on leur a enseigné, les faux dieux ne sont pas absolument inexistants, ni sans danger. Et les viandes qu'on leur sacrifie leur paraissent toujours suspectes et chargées d'un pouvoir maléfique. Alors ils ne peuvent se permettre de consommer la nourriture des idoles, de crainte que cela ne les replonge, si ce n'est pratiquement du moins, dans leurs pensées, dans leurs anciennes pratiques païennes. Et ils craignent ainsi de pécher à nouveau comme autrefois. Et chers frères et sœurs, cela arrive aujourd'hui encore dans l'Église. Et pour prendre une illustration, si un frère ou une sœur fréquentait autrefois peut-être des boîtes de nuit, passant des heures à s'assommer avec une musique assourdissante, c'était une idole pour ce frère ou cette sœur. Après sa conversion, cette personne n'osera plus écouter ces musiques-là. Et dès lors qu'elle entendra cette musique, ça lui rappellera sa vie de péché. Elle ne pourra plus allumer la radio ou écouter cette musique. Et j'en sais quelque chose, car je l'ai vécu il y a bien des années en arrière. Il m'était impossible, à cause de la vie que j'avais vécue avant, d'entendre à nouveau cette musique. Et si un frère, tout aussi frère et bien intentionné qu'il était, mettait une musique, le même genre de musique que j'écoutais autrefois, eh bien, c'était quelque chose qui me... J'avais l'impression de pécher à nouveau et de tomber. Pour ces chrétiens plus faibles, leurs expériences idolâtres, et peut-être si récentes, voire même si présentes à leur mémoire, qu'ils ne peuvent dès lors que rejeter par dégoût tout ce qui, de près ou de loin, semble y être attaché ou le leur rappelle. Ce peut être, par exemple, le cas de la cigarette. Si quelqu'un y est resté attaché pendant des années et des années et des années, et qu'il voit un frère peut-être fumer et qui en a toute la liberté, eh bien, ça le fait tomber. Je connais un frère qui, pendant des années, a rêvé de retomber dans la cigarette. Et il se réveillait paniqué la nuit en transpirant parce qu'il avait l'impression qu'il n'avait jamais arrêté. Ses frères et sœurs plus faibles ne peuvent donc en aucun cas prendre le risque d'être à nouveau contaminés par les actes, les paroles et les pensées néfastes qui ont gouverné pendant tant d'années leurs pensées et leurs actions. Et dans un souci de protection, et surtout, il faut le savoir, pour beaucoup d'entre eux, une aspiration à la sainteté, eh bien, ils reculent devant tout contact avec quoi que ce soit qui est associé de près ou de loin à leur passé païen. Alors, chers frères et sœurs, ce que nous remarquons dans ce texte, c'est que loin de se moquer d'eux, Paul est plein de sollicitude. Paul est plein d'affection pour ses croyants scrupuleux. On peut même affirmer qu'il les respecte et qu'il prend leur défense. Et comme je vous le disais, chers frères et sœurs, ne nous leurrons pas, cette situation n'est pas propre à Corinthe. Il y a aujourd'hui encore dans l'Église, et dans beaucoup d'Églises, et peut-être dans toutes les Églises, eh bien des frères et des sœurs plus faibles que d'autres, dont la conscience est restée très sensible, soit peut-être parce qu'ils viennent de se convertir, soit tout simplement parce que telle est leur nature, ou parce qu'ils ont été fortement marqués par la vie qui était la leur autrefois, ou leur éducation. Et nous devons, à leur égard, avoir la même sollicitude si nous sommes plus forts, et l'affection qui était celle de l'apôtre pour ses frères et sœurs plus faibles. Parce que ce sont justement des frères et des sœurs. Parce qu'ils agissent par motif de conscience vis-à-vis du Seigneur. Et je m'adresse à vous peut-être ce matin, qui appartenez à ce groupe de frères et sœurs plus faibles, et qui vous sentez peut-être culpabilisés. Et j'aimerais vous lire ce que Frédéric Godet a écrit, un théologien très connu. C'est très intéressant parce que ça reprend beaucoup d'entre nous, peut-être qui se croient forts. Combien de vérités nous possédons pour avoir appris notre catéchisme, dont nous sommes loin d'avoir tiré les conclusions pratiques. Écoutez bien. Combien de gens se moquent de la croyance aux revenants, mais que la peur des esprits épouvante quand ils se trouvent seuls dans la nuit. Elles sont nombreuses, les superstitions idolâtres qui exercent encore leur action sur notre chrétienté monothéiste. C'est intéressant. J'ai parlé du premier groupe, parlons du deuxième. Et ce deuxième groupe dont nous parle l'apôtre ici, eh bien c'est ceux qui ont bien compris que les divinités païennes n'existent pas, que les mauvais esprits ne peuvent pas contaminer les aliments, et pour qui, par voie de conséquence, de la viande, c'est de la viande. Qu'elle ait été cuite au temple ou qu'elle ait été cuite dans le micro-ondes ou dans le four, à la maison, enfin n'importe où, sur un barbecue, etc., c'est de la viande et on peut en manger. Il s'agit, dans un certain sens, et vous comprendrez pourquoi après, pour certains, dans un certain sens de chrétiens mûrs, fondés dans la vérité de l'Écriture, dont la conscience est en paix. Leur connaissance théologique trouve une application concrète dans leur vie pratique, au point de les délivrer intérieurement et pratiquement de tous les liens qui étaient les leurs autrefois. Ce sont des chrétiens forts. Si je devais prendre un exemple aujourd'hui, eh bien, il peut peut-être s'agir d'un croyant qui était peut-être autrefois, permettez-moi à nouveau cette image, de la musique, un passionné de musique, au point d'en faire une idole lorsqu'il était sans Dieu, et qui après s'être converti a compris que la musique est quelque chose de spirituellement neutre, et qu'il peut même continuer d'en faire à la gloire de Dieu, mais qu'il s'agit maintenant de placer au bon endroit. Après Dieu, et après ses devoirs légitimes en tant que chrétien. Et donc, pour ce chrétien, retoucher son instrument, son piano, son saxo, sa trompette, que sais-je, après sa conversion, ne sera pas l'objet d'une lutte intense avec sa conscience, au point d'avoir l'impression de pécher quand il joue de la musique. Mais le problème de ces chrétiens forts, chez les Corinthiens, et parfois encore aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent rapidement avoir la tendance de s'enorgueillir de leur prétendue connaissance, qui leur permet de vivre librement en Jésus-Christ et de manger sans cas de conscience de ces viandes sacrifiées aux idoles. Cet orgueil ou cette prétention peut les conduire à regarder avec une certaine condescendance, voire même arrogance, leurs frères plus faibles, qui n'ont pas la même liberté qu'eux à propos de ces viandes sacrifiées. Et ils peuvent même, volontairement ou non, exercer une telle pression qu'ils risquent de pousser ses frères à agir à l'encontre de ce que leur dicte leur conscience. J'aimerais juste rajouter que l'inverse est aussi possible. Et j'en viens maintenant, par voie de conséquence, au troisième point. Mais comment vivre cette liberté chrétienne? Et donc c'est toujours dans ces versets 1 à 3, puis 9 à 14. Très certainement que dans ces versets, et surtout la première digression, versets 1 à 3, et je répète 9 à 14, dans cette première partie, c'est très certainement à ces chrétiens forts et sûrs d'eux que s'adresse l'apôtre dans ces versets afin de poser le principe qu'il veut enseigner. Et il commence par leur faire savoir, donc dans ces premiers versets, que la connaissance dont ils se prévalent et qui leur permet de connaître une vraie liberté à propos du paganisme et en particulier des viandes ne vaut rien sans amour. Alors soyons clairs, je voudrais vraiment vous ôter toute confusion de l'esprit. Paul n'est pas en train d'amoindrir la valeur de la doctrine. Paul n'est pas en train de nier l'importance de la connaissance de la parole de Dieu au profit de l'amour, en disant « aimons-nous », et puis la doctrine c'est quelque chose de secondaire, ça assèche l'esprit, ça rend dur, etc. Comme on a souvent tendance à le dire aujourd'hui dans le monde chrétien. Ce n'est pas cela. Car pour Paul, il est impossible de croire et d'obéir à ce que l'on ne connaît pas. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est que la connaissance seule de la parole n'est pas suffisante. Elle doit être accompagnée d'amour à l'égard du prochain, et particulièrement ici, à l'égard des frères et sœurs plus faibles quant à leur conscience. En effet, si ces croyants forts affichent devant tous la liberté que leur donne leur connaissance, en mangeant des viandes sacrifiées, eh bien cela risque d'offenser ou peut-être de choquer gravement les croyants qui sont plus faibles. Or, je vous rappelle ce que dit le Seigneur Jésus, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Pour dire différemment les choses, Paul est en train de dire ceci à ces chrétiens forts, ne considérez pas votre liberté, considérez plutôt les besoins de vos frères. Si vous les aimez, comme Dieu veut que vous les aimiez, alors acceptez de restreindre votre liberté afin de ne pas les choquer, afin de ne pas les confondre, afin de ne pas affaiblir leur foi. J'aimerais encore être concret par rapport à cela. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Je ne vais pas faire une liste exhaustive, on pourrait faire tout un manuel. Mais si un frère sait, vous voyez que j'ai inversé, qu'en venant au culte au volant du dernier modèle de BMW. Et si je cite cet exemple-là, c'est que j'en connais un particulier d'un frère, il y a bien des années en arrière, qui a vécu cela. Si ce frère sait qu'en venant au volant du dernier modèle série 7 de BMW, il risque de choquer ses frères qui sont peut-être dans le besoin, qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture ainsi, et qui risquent même peut-être, qui seront peut-être poussés à maudire Dieu parce qu'ils n'ont pas suffisamment, eh bien il vaut mieux par amour qu'ils renoncent à ce modèle et prennent une Renault. Vous voyez comment un Français peut changer, hein. Si une sœur sait pertinemment qu'en venant avec une jupe courte ou un décolleté un peu large, elle risque de faire tomber les frères ou de les choquer ainsi que les sœurs, alors elle a meilleur temps d'y renoncer, comme je disais tout à l'heure, et de s'habiller différemment. Et ce peut être le même cas pour le frère, qui peut venir de façon débraillée au culte. S'il sait que ça risque de choquer, eh bien, mieux vaut pour lui s'habiller décemment ou autrement, pour justement ne pas choquer les frères, les sœurs, et leur permettre de se mettre à l'écoute paisiblement de la parole de Dieu. Si un couple sait dans l'Église qu'il y a des personnes seules et qui souffrent de cette solitude, du célibat, d'un divorce, d'un veuvage, eh bien il vaut mieux qu'ils évitent de faire savoir à tous de façon ostentatoire combien ils s'aiment, on le sait. Et vous savez, il n'y a pas besoin de se faire des mamours tout au long du culte ou de l'étude biblique pour être un couple qui s'aime particulièrement, car des fois, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Ça ne signifie pas qu'il faut se mettre à des kilomètres non plus. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Et vous pouvez continuer ainsi en prenant d'autres exemples. Dans les versets 9 à 14, Paul continue justement son raisonnement en prenant une illustration. Et il dit ceci. Un chrétien fort est invité à un banquet qui est célébré dans l'enceinte d'un temple païen. Il accepte l'invitation. Car étant éclairé, ayant de la connaissance, eh bien, il fait abstraction des superstitions qui accompagnent la fête. Il ne se laisse pas influencer par elles. Mais voilà qu'un chrétien faible, moins éclairé, arrive. Et il voit ce frère festoyer avec les idolâtres, et il en est troublé. Mais pour ne pas paraître craintif, eh bien, il se laisse entraîner par l'exemple de ce frère plus fort. Et il se joint à la fête. Il fait semblant d'être libre, parfaitement à son aise. Mais dans son fort intérieur, il est malheureux. Sa conscience le travaille. Il a le sentiment de commettre un péché et de trahir Dieu. Ce frère faible n'agit pas avec conviction. Or, comme le dit l'Écriture, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et faisant ainsi une chose que sa conscience réprouve, eh bien, il pêche. Et il s'engage dans la voie de l'infidélité, de la perdition, à cause de qui ? À cause du frère qui est plus fort. Alors voilà un beau succès, n'est-ce pas ? Le fort, par sa connaissance et son intelligence, a détruit ainsi le faible. Un frère anéantit un autre frère au moyen de sa connaissance, alors que celle-ci devrait au contraire l'obliger à se conduire avec sagesse et intelligence, mais surtout avec amour fraternel à l'égard de celui qui est plus faible. Alors bien entendu qu'on ne peut pas être toujours en train de regarder s'il y a un frère qui est derrière dans tout ce que l'on fait. On part du principe que ce frère plus fort savait qu'il risquait de faire tomber un frère plus faible qui était là. Et Paul ajoute même qu'en blessant ainsi un frère, on va jusqu'à offenser Christ lui-même, selon cette affirmation de Christ que tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors le principe, chers amis, que Paul veut nous enseigner ce matin est le suivant. C'est que la volonté de Dieu n'est pas identique pour tous. Et je dirais même ceci, un peu de la même façon que nous avons vu que certains sont appelés à être mariés et d'autres à demeurer célibataires, eh bien on peut dire que de la même façon, il est bon pour les uns de s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, de musique, de danse, de télé, d'internet, de voiture, que sais-je encore si leur conscience le leur interdit. Ça ne signifie pas que leur conscience va toujours le leur interdire, mais si tel est le cas, eh bien, il est bon pour eux de demeurer ainsi. Les autres, quant à eux, ont la liberté d'user de ces choses si leur conscience ne le leur interdit pas. Et d'un côté comme de l'autre, personne n'a à vouloir soumettre les autres à ses propres règles. Je vais au stade, donc tu dois aller au stade. Je regarde la télé, donc tu dois la regarder, et vice-versa. En effet, ce que Dieu veut, ce n'est pas que l'on mange ou pas, que l'on boive ou pas, que l'on joue d'un instrument ou pas, qu'on pratique du football ou pas. mais que l'on aime son prochain. C'est une grâce, chers frères et sœurs, de savoir limiter sa liberté chrétienne par amour pour son frère. Je rajouterai même ceci, l'amour seul limite la liberté chrétienne, mais il la limite effectivement. Je conclus ainsi, au moyen de cette déclaration finale de Paul. Et remarquez que cette déclaration finale de Paul est particulière. Il s'y engage personnellement. Jusque-là, il vient de parler des chrétiens forts et des chrétiens faibles. Il reprend les plus forts. Mais maintenant, il se met, lui, en jeu. Et il dit, « C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Paul est prêt à sacrifier son droit, à sacrifier sa liberté pour rester dans l'amour fraternel et ne blesser personne. Pour lui, l'œuvre de Dieu dans la vie d'un frère ou d'une sœur a beaucoup plus d'importance qu'une tranche de viande rôtie ou quel que soit d'autre que l'on peut légitimement utiliser ou fréquenter ou pratiquer. Beaucoup plus important. Ainsi, chers frères et sœurs, il y a aujourd'hui de nombreuses choses dans notre vie chrétienne qui, bien que n'étant pas formellement interdites par la parole de Dieu, risquent néanmoins d'entraîner des chrétiens plus faibles dans le péché, parce que leur conscience est sensible. Alors, même si nous avons le droit de les pratiquer, une considération plus élevée doit nous faire renoncer à ce droit pour le bien spirituel de ceux que nous aimons en Christ, nos frères et sœurs, que nous aimons en Christ par amour et pour la gloire du Seigneur. Alors, sachons, par amour pour nos frères et sœurs, par amour pour le Seigneur, eh bien, renoncer s'il y a nécessité. En sachant que ces renoncements, finalement, même s'ils nous paraissent parfois élevés au début, ne sont pas si grands que ça à la fin. Amen.